Bonjour, Joël Zask.
Bonjour.
Près de 2 millions d'hectares brûlés en Sibérie, la Californie, l'ouest du Canada sous les flammes également, l'Algérie, la Grèce, la France. Cet été, de nombreux feux de forêt très importants ont fait d'énormes dégâts, à tel point que l'on parle depuis quelques années désormais de méga-feux. Joël Zask, déjà, quelle est la différence entre un feu saisonnier et un méga-feu? Sont-ils de la même nature?
Ben non, ils ne sont pas de même nature et je crois que tout le monde commence à en faire vraiment l'expérience cuisante, si je peux dire. Ce sont des feux beaucoup plus étendus, beaucoup plus violents, qui au lieu de régénérer la forêt, la détruisent très durablement et qui par ailleurs ont cette caractéristique assez terrifiante qu'ils ne sont pas maîtrisables. En fait, ce sont des feux qui meurent un peu de cause naturelle quand il n'y a plus de combustible, quand il pleut ou quand il se manégeait, comme en Sibérie. Mais en tout cas, les efforts des pompiers, disons, sont extrêmement utiles pour protéger les maisons et les vies, non pas les vies des animaux d'ailleurs, mais les vies humaines. Mais en revanche, en ce qui concerne la maîtrise des flammes, ça devient extrêmement compliqué quand on a affaire à des méga-feux.
Vous le disiez, ces feux ne jouent pas de rôle dans le renouvellement des forêts. Quel impact ont-ils justement sur les écosystèmes?
Alors, ça dépend de leur rythme, en fait, de leur occurrence. C'est-à-dire que, par exemple, la forêt méditerranéenne a besoin d'une quarantaine d'années pour se régénérer. Donc, si le feu passe plus souvent, eh bien, les couches de végétation sont très durablement détruites. La forêt nord-américaine a besoin d'une centaine d'années pour se régénérer. Donc, ce qui semble assez évident, c'est le cas, par exemple, de la tortue d'Hermann, c'est que les espèces qui disparaissent dans les flammes ne vont pas nécessairement revenir naturellement. Il y a quelque chose qui revient, mais ça va être différent et il faudra beaucoup de temps, en tout cas, et sans flammes pour que on retrouve une situation identique à celle qu'on a perdue.
Justement, Joël Zask, est-ce qu'un écosystème peut se remettre d'une telle épreuve?
Alors, ça dépend à quelle échelle on va se situer. Il peut se remettre localement, au sens où de nouvelles plantes vont apparaître, parfois des plantes d'ailleurs assez différentes. Par exemple, la forêt du Cap Bénat, qui a eu lieu en 2017, en août 2017, repousse, mais sous la forme de mimosa 4 saisons, d'eucalyptus. Les pins, évidemment, ne réapparaîtront que beaucoup plus lentement. Il en va de même des chênes lièges ou des chênes verts. Par ailleurs, je dirais au niveau international ou au niveau planétaire, il faut voir quand même que les méga-feux jouent un rôle très très important dans l'émission des gaz à effet de serre. Ils réchauffent la banquise et la font fondre parce que les cendres s'y déposent et donc la noircissent. Donc il y a tout un dérèglement climatique qui est généré par les feux qui en plus ont cette vertu en quelque sorte ou cette propriété d'engendrer leur propre climat comme des tornades, des vents du diable et choses de ce genre. Donc je crois que d'un point de vue écologique, il est vraiment urgent de réduire les activités humaines génératrices de dérèglements climatiques parce que ce sont ces dérèglements qui sont la source de ces méga-feux.
Ces méga-feux, justement, Joël Zask, c'est un phénomène qui revient désormais tous les ans. Comment l'expliquer? Est-ce que cette fréquence est inédite à une échelle géologique dans l'histoire de la planète, ou est-ce vraiment dû à l'activité humaine?
Là, en l'occurrence, je crois que aussi ces méga-feux, ils ont pour caractéristique d'être liés aux activités humaines. L'anthropocène est aussi un pyrocène. C'est-à-dire, en fait, il y a deux séries de causes. Il y a d'abord, évidemment, le dérèglement dont les activités humaines extractivistes sont la cause, à savoir des températures infernales, l'allongement des périodes de sécheresse, la dégradation de la forêt qui fait que les arbres sont envahis de nuisibles et donc que les matières sèches s'accumulent. Et puis il y a aussi une autre série de causes, c'est je dirais la destruction des activités traditionnelles dans les forêts, des peuples qui en étaient les porteurs et les connaisseurs, les savants en quelque sorte. Nos paysans, nos forestiers en sont aussi les victimes, mais on peut penser aux aborigènes d'Australie, aux Amérindiens partout en Amérique, aux Indiens en Amazonie ou en Indonésie, dans les forêts indonésiennes, et même aux peuples nomades sibériens qui savaient y faire avec le feu. Et tous ces gens, soit ont été détruits culturellement, soit ont été déplacés ou exterminés. Et donc l'entretien de la forêt, qui est absolument nécessaire, puisque les forêts sont acclimatées au feu et quelque chose de comme depuis 2 millions d'années n'a plus lieu. Donc c'est aussi ça qu'on découvre dans le Var, c'est-à-dire que on parle d'un c'est un fait divers, mais il est important que un homme de 84 ans a enseigné à quatre jeunes comment entretenir leur terrain pour éviter le pire. Et il a sauvé tout un coin de la planète en quelque sorte par son savoir. C'est ce savoir-là qu'il faut retrouver. Et ça, c'est un savoir qui est collectif, qui doit être en quelque sorte pratiqué en commun et retrouvé en commun.
Le 30 juillet dernier, le président américain Joe Biden déclarait voir dans les méga-feux la preuve de l'urgence à agir énergiquement pour le climat. Le dernier rapport du GIEC souligne qu'avec le dérèglement climatique, leur fréquence va augmenter et que peu de régions du monde seront épargnées. On a l'impression que le constat est posé par tout le monde, qu'il est clair. Ce constat n'est pas neuf et pourtant, excepté dans l'urgence, on ne voit pas beaucoup d'actions. Est-ce que ça vous étonne, Joël Zask?
Je pense qu'il y a, un éparpillement des actions qui les rend pas forcément tout à fait visibles, mais que ces actions, elles existent. Il y a ce qu'on appelle en Corse une culture du feu qui se remet en place un peu partout. Par exemple, les autorités californiennes font appel à des éleveurs de chèvres ou de moutons qu'ils installent dans les forêts pour qu'ils les débroussaillent. On démaquise un peu partout, dans le Gard, dans le Var, partout en Provence, les gens s'organisent. Et ils s'organisent de manière très très efficace parce que justement, ils font appel à des savoirs ancestraux d'une part, ils les font ressurgir et puis par ailleurs ils montent des tours de garde, ils débroussaillent. Alors je pense qu'effectivement les mesures punitives seront sans doute à long terme beaucoup moins efficaces que une conscience écologique qui va devoir traverser les groupes sociaux, les habitants, les touristes, tous ceux qui finalement attache une importance d'abord aux générations futures et puis ensuite à l'environnement.
Mais en ce qui concerne la cause première, qui sont les émissions de gaz à effet de serre par l'humanité, responsable, selon le dernier rapport du GIEC, du dérèglement climatique, là, pour le coup, encore une fois, on renvoie tout à plus tard, notamment à la prochaine COP26 à Glasgow en novembre.
Alors, au niveau des grandes décisions politiques, évidemment, qui pèsent extrêmement lourd dans la balance, puisque nous ne sommes pas tous à égalité responsables du dérèglement climatique, mais qu'il y a vraiment de très, très gros pollueurs et que le crime d'écocide qui vient d'être créé me semble absolument déterminant. Mais là, je pense que le rôle de chacun, c'est de voter en conséquence, c'est-à-dire... les plus grands climato-sceptiques ont été élus démocratiquement assez récemment. Je pense à Trump, Bolsonaro, Morrison en Australie. Donc que font les électeurs? Et là, en l'occurrence, je crois que c'est aussi une responsabilité de chacun. C'est-à-dire que les gouvernements agissent, non pas sous la pression de l'événement, mais sous la pression de l'opinion publique qui peut être très éclairée.
Merci.
C'est sur elle que je compte personnellement.
Merci beaucoup, Joël Zask. Bonne journée.